بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحاب أجمعين. أبو داود, ce grand savant qui a collecté et rassemblé et compilé les paroles du prophète, rapporte, d'après une chaîne de transmission qui remonte au compagnon Jabir ibn Abdillah, ce compagnon dit, nous étions en voyage et l'un de nous, le prophète n'était pas avec eux, il était à Médine. Donc ils étaient en voyage entre eux. L'un de nous a reçu une pierre sur la tête. Il a été blessé, grièvement blessé. Le lendemain, cet homme s'est réveillé en état d'impureté majeure. Il doit prendre une douche. Mais il est blessé. Alors il va interroger ses amis, les compagnons, certains compagnons, en leur disant, pensez-vous que j'ai le droit à la dispense, à la dérogation du tayammum? Alors le tayammum, c'est le fait de délaisser l'eau et d'utiliser un élément de la terre pour faire nos ablutions. C'est une dispense, une dérogation en cas d'absence d'eau ou de difficulté. Et ses amis vont lui dire, non, tu n'as pas le droit d'avoir recours à cette facilité car tu es capable d'utiliser l'eau. Tu n'es pas handicapé. Il y a de l'eau, tu vas utiliser l'eau. Et Mskin, il va écouter ce mauvais conseil, il va se laver et il va en mourir. Et quand ils vont retourner chez le prophète, ils vont lui raconter cet incident et le prophète va se mettre en colère, il va dire, ils l'ont tué, que Dieu les tue. Pourquoi n'ont-ils pas posé la question? Le remède contre l'ignorance, c'est le fait de se renseigner. Il lui aurait suffi de mettre un bandage, un pansement sur son ouverture, de laver son corps et de passer sa main sur le bandage, sur le pansement, sur le plâtre. Mais dites-moi, où est l'erreur de ces personnes? Ignoraient-ils leur religion? Non. Ils étaient au courant des règles juridiques. Ils savaient qu'il y a en islam, quand on est en état d'impureté majeure, ce qu'on appelle le lavage rituel. Et il savait également que dans certains cas, on a le droit de faire tayammum. Il n'ignorait pas la dérogation, il la connaissait. Où est donc le problème? Le problème, il est dans le fait qu'ils ont été durs et rigoristes et qu'ils n'ont pas su évaluer la situation. Il leur manquait des éléments. Il leur manquait des éléments. Des éléments importants, c'est la connaissance de la situation de la personne, de sa réalité, de son contexte. Là est leur problème. Pas dans la religion, mais dans la compréhension de leur religion et la compréhension de la situation que vit la personne. Et les savants disent que la fatwa, l'avis juridique, l'avis religieux, nécessite plusieurs conditions. L'imam Ahmad, ce grand savant, qui est l'un des fondateurs des grandes écoles juridiques, il dit, personne n'a le droit, ou personne ne peut se permettre de donner un avis religieux que s'il remplit 5 conditions. Il doit avoir une bonne intention, car certaines personnes donnent des avis religieux, mais ils sont mal intentionnés, ou alors ils subissent des pressions politiques, des pressions financières, ou des pressions, ils veulent plaire aux gens. Donc leur intention n'est pas bonne. Il doit avoir une bonne intention, de manière sincère. Il le fait pour Dieu. Deuxièmement, il doit avoir des qualités morales et spirituelles. Troisièmement, il doit être quelqu'un de savant, d'érudit. Il maîtrise les textes, le Coran, la Sunna. Quatrièmement, il doit... Alors, c'est pas une obligation, mais... Si vous voulez, il dit, ça serait bien qu'il soit indépendant, afin qu'il ne subisse pas de pression des gens, notamment financière, qu'il soit indépendant, qu'il ne soit pas un vendu. Et dernièrement, qu'il connaisse sa société, ou qu'il connaisse la personne qui vient lui demander une fatwa, il doit connaître sa situation, sa société, sa vie, et aussi son état. Et ça, c'est très important. son état psychologique et son état spirituel, car la vie religieuse va s'adapter à l'état spirituel de la personne. Est-ce qu'il vient de commencer la pratique ou alors c'est quelqu'un d'averti? Le prophète a.s.w. a reçu la tribu de Thaqif, une tribu complète qui est venue se convertir à l'islam. Le prophète leur explique les obligations. Et vous savez ce qu'ils disent? Ils disent, l'islam, nous l'acceptons, nous le prenons, sauf deux choses. Ils font un tri. On ne veut pas de la zakat, on ne veut pas verser la zakat. Et on ne veut pas faire le jihad. S'il y a un ennemi qui vient, on veut être exonéré de zakat et ne pas s'engager pour défendre la patrie et repousser l'ennemi. On ne veut pas de ça. La difficulté, on n'en veut pas. Le prophète va dire, j'accepte. Et ils vont lui faire la bay'a, prêter serment, ils vont se convertir à l'islam, en délaissant ces deux obligations. Les compagnons vont dire, prophète, tu as fait une concession sur deux piliers dans l'islam. Et le prophète va leur dire, laissez-les, ils vont se convertir et ils finiront par payer la zakat et, en cas de danger, défendre leur famille, leur société. C'est-à-dire, laisser la foi pénétrer leur cœur et la pratique va venir automatiquement. Soyez intelligents, psychologues, pédagogues. Mais en même temps, nous avons un autre hadith où un compagnon, un homme, vient, se présente au prophète et c'est à peu près le même cas de figure. C'est-à-dire que l'homme dit, prophète, je ne veux pas le jihad et je ne veux pas verser la zakat. Parce que j'ai entendu dire que celui, lors du combat, celui qui fait demi-tour, qui se sauve, Allah va être en colère contre lui. Et celui qui et je n'ai que quelques chameaux, qu'un petit troupeau de chameaux, et je ne veux pas verser zakat. Et le prophète va prendre sa main, et il va la secouer, il va lui dire, mais comment penses-tu entrer au paradis? Et l'homme va dire, prophète, c'est bon, j'accepte tout. Donc le prophète savait distinguer l'individu du groupe. La personne, il sent que cette personne sera capable, et celle-là ne sera pas capable. Il était psychologue. Abdullah ibn Abbas, après la mort du prophète, a reçu une personne auprès de lui, une consultation. Cette personne va lui dire, « Oh Abdullah, est-ce que Dieu peut me pardonner si je commets l'adultère ou la fornication ?» Et Abdullah va dire, « Non, Dieu ne te pardonnera pas. » Et une autre personne vient et lui pose la même question, et il dit, « Dieu te pardonne. » Et ses élèves vont lui dire, « Pourquoi ?» À deux questions identiques, deux réponses différentes. Il va dire, car la première personne, j'ai vu dans ses yeux qu'il voulait commettre le péché, alors je l'ai dissuadé. Quant au second, j'ai vu dans ses yeux le regret. Il avait commis le péché et il voulait se repentir, donc j'ai parlé avec lui en utilisant l'espoir et la miséricorde. Le prophète a.s.w. a reçu un homme âgé qui lui a posé cette question, au prophète, quand je suis en état de jeûne, ai-je le droit d'embrasser mon épouse? Et le prophète a dit, oui, c'est autorisé. Un autre homme est venu, mais celui-ci était jeune, il venait de se marier. Ai-je le droit d'embrasser mon épouse? Il va lui dire non. Et les compagnons vont lui faire la remarque. Il va dire, car la personne âgée peut se maîtriser, quant à lui, il ne peut pas se maîtriser. Et voilà comment le prophète et les compagnons savaient adapter leurs avis religieux au contexte, à la situation des gens, et ils calculaient les conséquences. Regardez, Aïcha radiallahu anha, dans un hadith rapporté par le Bukhari, vous savez ce qu'elle dit? Elle dit, si les premiers versets à être révélés, c'était, ne commettez pas la fornication, ne buvez pas l'alcool, personne ne l'aurait fait. Mais les premiers versets à être révélés, c'est, le paradis et l'enfer. La foi a pénétré le cœur des gens et Allah a voulu que les obligations et les interdits soient révélés beaucoup plus tard, des années plus tard, notamment à Médine. Quant à l'alcool, écoutez cette histoire. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, était dans les rues de Bagdad, et c'est lui, il raconte cette histoire dans son encyclopédie qui rassemble les fatawas, les avis juridiques et religieux. Et il dit, j'étais avec mes élèves dans les rues de Bagdad, et à cette époque, l'empire musulman avait été envahi sauvagement par les Tatars, les Mongols, et il y avait un groupe de Mongols qui était en train de se saouler. Et les élèves d'Ibn Taymiyyah leur font la morale. Arrêtez de boire l'alcool, c'est pas bon. Et Ibn Taymiyyah va leur dire, taisez-vous, laissez-les. Ils vont lui dire, mais dans notre religion, ils ont demandé de nous opposer à ce qui est mauvais et d'inviter les gens au bien. Il leur dit, taisez-vous, car quand ils sont ivres, ils ne s'attaquent pas à nos femmes et à nos enfants. Il vaut mieux les laisser dans ce péché, plutôt qu'ils nous fassent des choses plus graves. Et un savant écrit dans un livre que dans l'ex-URSS, un groupe, ou carrément même une tribu, ou un peuple si vous voulez, voulait se convertir à l'islam. Et quand le chef a discuté avec un savant, le savant a expliqué l'islam, les interdits et les obligations, et ils ont dit, on accepte tout sauf la vodka, on ne peut pas la délaisser. Et il va dire, c'est vous prenez ou vous laissez, c'est à prendre ou à laisser. On ne s'amuse pas dans la religion, et ils ne sont pas entrés dans l'islam. Cheikh Al-Qardawi, dans son livre Fiqh al-Tahara, il dit qu'une tribu en Inde a rencontré un savant, et ils lui ont dit, on veut se convertir à l'islam. Et parmi les choses qu'il a demandées, vous devez tous vous circoncire. Circoncision. Ben, ils ne sont pas entrés dans l'islam. Donc, le savant qui se prononce, qui statue sur une situation, il doit la connaître et la maîtriser. Ou sinon, ça va être catastrophique. Et l'un des gros problèmes que nous connaissons aujourd'hui, c'est la mauvaise compréhension de notre religion. Et on connaît les textes, les règles, mais on ne sait pas les adapter à notre réalité. Soit parce qu'on ne connaît pas la réalité, ou on ne connaît pas ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Cette capacité dans notre religion à calculer les conséquences de nos mots, de nos gestes, de nos décisions, et de prendre en compte la sensibilité des gens. Je termine par cette histoire, parce que je pense que vous avez déjà entendu des gens vous dire « Mais délaisse ton travail, puisque tu ne peux pas prier. » Écoutez, Al-Bukhari rapporte que Abu Barzat al-Aslami, ce compagnon, était accompagné de son cheval, et il n'a pas trouvé un endroit où l'attacher. Alors il a dû prier la prière obligatoire en tenant la sangle. Et vous savez qu'un cheval bouge. Et donc il priait en bougeant. Et il y avait un groupe de personnes qui le regardaient. Et ils vont se moquer de lui. Ils vont dire, c'est toi le compagnon du prophète? C'est quoi cette prière? T'aurais dû lâcher ton cheval. La prière c'est plus important. Et Abu Bazal Islami va se mettre en colère et va leur dire, vous me critiquez moi alors que j'ai participé à plus de 8 batailles aux côtés du prophète et j'ai vu avec quelle souplesse il pratiquait sa religion. Et c'est là le problème. C'est qu'on n'a pas vécu au temps du prophète, on n'était pas à ses côtés. On connaît ses paroles, mais on ne connaît pas sa personnalité et sa vie. Et cette dissociation, ça crée de nombreux problèmes dans la compréhension de la religion. Et vous savez qui étaient ces gens? Al-Khawarij, la secte dissidente, la première dans l'islam. Quel était son problème? Avait-elle un problème de foi? Avait-elle un problème de pratique? Non, le prophète a dit à son époque, et c'était une prémonition, il dit, vous allez connaître ces gens, les Khawarij. Quand vous allez voir leurs pratiques religieuses, vous allez mépriser votre adoration. Car ils vont prier plus que vous. Ils vont jeûner plus que vous. Ils liront le Coran plus que vous, mais le Coran ne descendra pas sous leur gorge. C'est-à-dire, ils vont lire, mais sans comprendre. Ils n'avaient pas un problème de foi, ni de sincérité, ni même de pratique, mais leur problème était dans la compréhension de leur religion. Et c'est ça le gros problème aujourd'hui. On comprend mal la religion. Et ça crée des problèmes. Et j'ai été choqué hier, quand j'ai reçu un texto, qui va sûrement tourner, que vous allez recevoir, où on nous dit, tel moufti de tel pays musulman est à votre service, vous les musulmans de France, afin de répondre à vos questions et afin qu'il vous fasse des fatwas de 10h à 13h et de 17h à 20h, à 21h. Donc on va aller interroger une personne qui va se prononcer sur des questions qui nous concernent nous, dans un pays qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas les conséquences de ses paroles, mais ça va être catastrophique. C'est grave. Est-ce qu'on n'a pas des savants qui connaissent notre réalité? Pourquoi les chercher ailleurs alors qu'on a les savants les plus compétents? nous allons, incha'Allah, après la prière, accomplir salat al-janaza ala al-ghaib. Kain wahed l'akh toufa, Allah irhamou, min a'ilat Mizyan, Farid Mizyan, li asbab, dfen f wahed l'maqbara, walam yusalla alayh, walam yughassal. Walakin wajib ala l'umma l'islamiyya, an tusalli ala ayy muslim toufa. حتى لو لم يغسل ولم يكفن إلا واحد الإنسان تحرق كان في واحد الحريق وتوفى وما قدرناش نغسلوه ولا نكفنوه ما غنصلوش عليه لا ماشي من شروط الصلاة صلاة الجنازة أن الإنسان يكون مكفنا ومغسلا On va prier sur l'un de nos frères qui est décédé qui est d'ailleurs enterré au cimetière d'Onin, et pour X raisons, personne n'a prié sur lui, ni personne ne l'a lavé, et personne ne l'a enveloppé dans un linceul. Donc on va prier sur lui, et la prière mortuaire, quand la personne est absente, est autorisée en islam, le prophète l'a déjà fait. Donc on va prier sur notre frère, afin que Dieu lui pardonne ses péchés, juste après la prière. Et une famille a demandé qu'on fasse des invocations pour elle. Ils ont fait une bonne sadaqa pour la mosquée, que Dieu les récompense. On fera des invocations pour cette famille et pour toutes nos familles. Et je vous rappelle que demain, samedi, après la prière de l'Isha, nous avons notre veillée spirituelle mensuelle. Donc rendez-vous après le Isha pour faire des prières nocturnes et parler des anges. Et on va essayer de s'imaginer la journée idéale du croyant en compagnie des anges. Comment rendre les anges nos alliés au quotidien. Et comme d'habitude, le dimanche à 19h, le cours de l'imam ici même. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba nabiyyik wa tiba'a sunnatih. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka an tubarika fi mali hadha al-ahl. Allahumma taqabbal sadaqatahum. Allahumma aj'al qulubahum muta'alliqatan bimasajidik. Allahumma ihfaz lahum awladahum. Allahumma adkhilhum jami'an al-jannah. Allahumma ihfaz lana ahlana. Allahumma ihfaz lana awladana. اللهم يسر أمورنا اللهم بارك لنا في صحتنا وفي مالنا اللهم ألف بين قلوبنا بارك لنا في مسجدنا فقهنا في الدين علمنا التأويل اللهم إنا نسألك الفهم الصحيح لهذا الدين اللهم وفقنا للفعل الخيرات وترك السيئات اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة